Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau épisode de Wi-Fi Café Ambition, l'épisode 5 de la saison 2. Et puis c'était toute une semaine, on en a beaucoup à dire, on a un invité extraordinaire et génial. Et avec moi, qui m'accompagne comme d'habitude, toujours fidèle au poste, Josiane.
Oui, bonjour, qui va passer aussi à la radio de Radio-Canada, à l'émission, si je n'abuse pas, l'heure du monde à Radio-Canada. Donc ça va être enregistré, je mettrai le lien dans la barre de description sur YouTube et sur mon site internet, Josiane Rousseau.
Excellent, excellent. Puis c'est drôle parce que notre invité d'aujourd'hui, justement, a été à la radio, justement, sur la même...
Exactement, mais donc, c'est ça. Cette semaine, on rentre encore dans le commerce en ligne et tout, parce que je pense que les gens...
Cette semaine, parlant de commerce en ligne, j'ai été dedans, c'était une semaine incroyable chez Néomédia, agence marketing web. J'avais des œillères et je fonçais, parce qu'on a géré un volume d'affaires probablement 3 à 4, peut-être même 5 fois de qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire dans une semaine.
Ça a été,
on a condensé cette semaine, 3 mois de travail, tu sais, 3 mois de travail en une semaine. En ce moment, les gens ne le voient pas, mais j'ai des larmes de sang qui coulent tellement que ça a été intense. J'ai de la boucane qui sort par les oreilles.
C'est ça, le rouge en dessous du nez, je pense.
Non, mais tu sais, te donner une idée, 10 minutes avant qu'on commence ce podcast, j'étais encore dans mon bureau en train de finaliser justement le commerce en ligne d'un de nos clients. Et puis, avant qu'on aille profondément dans le sujet, je suis tellement fier de nous dernièrement.
Oui.
Comment qu'on réagit à la crise, comment qu'on traite nos clients, comment on les aide de manière transparente et intègre à aller justement sur le web et à bien s'adapter. Le faire d'une manière où est-ce que c'est gagnant pour eux. Et puis, oui. Je suis tellement fier. Je suis tellement fier parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être un peu comme un pilier du changement. Et je suis tellement fier et rempli de gratitude qu'on puisse faire partie de tout ça et puis qu'on peut le faire d'une manière honnête, transparente et puis d'une manière qui est gagnante, gagnante, gagnante.
Oui, puis qu'est-ce qu'on voit aussi, tu sais, c'est beaucoup, les gens sont dans l'action, ils veulent réagir vite, ils réagissent vite, ils veulent s'installer rapidement sur le web et nous, je me sens un petit peu comme les travailleurs essentiels du web en ce moment et je sais qu'il y a d'autres agences aussi et comme je disais à la radio, nous, ça va bien parce qu'on était établis comme partenaires de commerce en ligne, de boutique en ligne, on s'est spécialisé là-dedans, on a pris de l'expertise là-dedans au fil des ans et tu sais, je vois des gens en événementiel que ça va moins bien. J'ai reçu aussi quelques CV cette semaine. Et ça, j'en parlais aussi à la radio. Donc, je ne sais pas s'ils vont mettre l'intégrale ou quoi. C'est sûr que quand on parle, souvent, il y a des coupures à la radio traditionnelle comparativement au podcast. Puis c'est ça aussi qui enlève un peu moins de censure.
Oui, parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la formule podcast, la formule web, ça nous permet de parler sans censure, d'être complètement transparent et puis d'avoir aucun attachement. Et puis depuis le début qu'on a parti le podcast sur la chaîne YouTube, un peu partout, ça nous a tellement permis d'aller sortir des vérités, d'aller sortir des choses qui se disent, qui se diraient pas ailleurs. On a brisé l'omerta. Moi, mon plus beau moment, justement, où est-ce qu'on a été le plus vrai, c'est incroyable. J'en parle, j'en ai des frissons. C'est la fois où est-ce qu'il y avait une genre de simili experte à, je crois, Radio-Canada qui parlait de marketing d'influence.
Ouais,
et que c'était du non-sens. Tu l'as tellement bien décortiqué, vulgarisé, réexpliqué.
Ça, c'était une vidéo YouTube, c'était même pas sur le podcast.
Exactement.
Donc, oui, non, c'est ça. Je pense que les plateformes de médias non traditionnels permettent aussi de s'exprimer, faire le point. Parce que des fois, tu sais, genre, je dis des choses puis ça sort un petit peu autrement dans les médias, c'est positif, mais ça peut avoir un regard aussi négatif. Donc, tu sais, on dirait que c'est... On tombe dans une zone grise, alors de pouvoir s'exprimer librement sur le web,
c'est... Mais tu sais, quand tu fais un montage extensif sur n'importe quelle pièce de contenu, que ce soit une pièce de contenu vidéo, une pièce de contenu audio, c'est tellement facile de changer le message de quelqu'un. Puis tu l'as vu justement, où est-ce que je suis littéralement capable de faire des vidéos ou que je fais avoir Daphné des monologues de 45 minutes. Qu'en réalité, elle a parlé pendant 2 minutes, mais que je réutilise des petits bouts de ce qu'elle a dit. Fait que c'est beaucoup de ça qu'on se rend compte, qu'on voit à la télé, mais peu importe en ce moment, je suis fier comparé à où est-ce qu'on était dans les 5 dernières années, de où est-ce que les médias mainstream s'en vont par rapport au web. Là, on commence à être dans une belle place. Puis comme tu parlais tantôt, on arrive dans une belle époque de transparence.
Oui, de transparence, mais aussi une belle époque où est-ce que les gens se réveillent et qu'ils ne veulent plus se faire bullshitter pour être sur le web.
Exact.
Et ben aujourd'hui, notre invité, notre belle invitée d'aujourd'hui, c'est Zéro Bullshit. Moi, j'adore la suivre. La première fois que je l'ai vue sur Instagram, ça fait comme « Oh my God, j'aime cette fille-là, elle a un chandail métal ». Puis elle a un nom associé au café. C'est Coffee Queen. Puis je pense que dans les dernières semaines, elle mérite vraiment, vraiment le titre de royauté Coffee Queen. Donc, on accueille Taina Di Napoli. Taina.
Mais avant Taina Di Napoli, oui. Moi, qu'est-ce que je vois d'elle? Tu sais, je veux dire, je la connais pas autant que toi. Je la connais parce que je la suis sur le web. Et puis,
elle
moi,
qu'est-ce que je vois, que justement? Elle est passionnée.
Tu parles de royauté, justement. Sur le web, dans les médias, dans le monde des affaires au Québec, et je suis tellement d'accord parce que qu'est-ce que je vois d'elle? C'est que c'est quelqu'un qui a extrêmement bien joué ses cartes au niveau de se positionner dans différents cercles sociaux pour bâtir des relations gagnantes-gagnantes. Puis ça, je pense qu'il y a tellement de gens qui peuvent apprendre d'elle parce qu'elle le fait excessivement bien.
Ça, sans donc, plus de parler genre 5 langues, si je me trompe pas.
Exactement. Elle porte bien son titre. Donc, Taina, bienvenue sur le podcast.
Salut!
Donc, Taina,
toi, yes, my dear.
Le lockdown, le confinement.
Comment tu vis ça?
Ça a été un changement.
Ben, ça a amené un changement. Ben, un changement. Je veux dire, j'ai starté une nouvelle business de A à Z complètement. Fait que changement, je sais même pas si on appelle ça un changement ou un reborn, genre une espèce de un baptême quasiment. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est vraiment engendré chez moi. Un virage à 180 degrés de la direction où est-ce qu'on s'en allait depuis les 6 dernières années. Sinon, à la maison, ça va bien. On est heureux. Tout le monde va bien. Fait qu'on fait partie des chanceux où est-ce que le confinement est un peu une période de... Je vais pas dire de repos, parce que je me suis pas reposée pantoute, mais...
On doit travailler beaucoup.
On est à la maison ensemble, là, puis on joue à des jeux vidéo, fait que c'est le fun. Fait que moi, on joue à des jeux vidéo, on s'occupe de nos chiens. Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Ça fait des petites vacances, mais je te regarde, c'est tu pousse. Mais
ça me fait penser ce qu'elle vient de dire. Depuis le confinement, je trouve tellement, c'est encore vrai, c'est quelque chose qu'on dit depuis des années, les gens ont trouvé des manières de travailler tellement plus efficacement puis de compresser le temps. Il y a tellement de meetings inutiles qu'on faisait, qu'on allait à l'autre bout de la ville pour dire 3 mots à quelqu'un juste pour dire que tu as serré la main quand dans le fond, tu pouvais juste faire ça en 5 minutes sur un Zoom, un Skype, un Google Meet, peu importe, ou même dans un email. Les gens travaillent de manière efficace en ce moment et je suis fier.
C'est ça. Toi, au départ, tu sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, puis tout ça, c'était vraiment une business qui fournissait à des chaînes de restaurants, à des bureaux, pour nommer ceux-là. Tu as passé aussi à l'œil dans du dragon et c'était vraiment, tu sais, du café pour les entreprises.
Oui, absolument. Avec, dis-moi, mon seul business, c'était du B2B. Fait que notre très grande majorité de clientèle, c'est les bureaux. Puis on commençait tout juste à commencer à avoir des clients. Restauration au niveau des chaînes, parce que nous, on a décidé de faire plutôt les chaînes que le restaurateur unique pour plusieurs raisons. Fait que, tu sais, c'est poche, hein? C'est comme je venais d'investir sur un nouveau site web, je venais d'investir sur une nouvelle stratégie de MarTech, sur des processus. Là, j'avais enfin autopilot, là, j'avais enfin un journey pour mes gens en B2B. Puis ça, j'avais commencé à lancer mes campagnes, j'avais rempli mon agenda, mais tout le monde n'était juste pas revenu de vacances.
Oh. Ah, ouais. Ben oui, parce qu'il y a eu la relâche juste avant.
On l'a tellement vécu, ça aussi.
Nous aussi.
Parce que, non, mais dans l'agence marketing web, on est dans une position où est-ce qu'on est entre la petite puis la grosse agence. On est une petite grosse agence dans le sens où on soumissionne sur des contrats où est-ce qu'on voit, tu sais, justement, qui soumissionnent à côté de nous, tu sais, des agences comme LG2, comme Cossette, dans ce genre-là. Puis on était sur une belle lancée où est-ce qu'on performait bien dans les appels d'offres. Il y en avait qu'on pouvait sentir qu'on allait l'avoir, des gros contrats. Là,
tu sais, on était tout excités à peu près comme toi quand tu viens de closer un deal ou que tu es sur le bord d'en signer un sur ton Instagram story. Si jamais vous voulez voir Taina closer des deals quand ça va repartir à machine, suivez-la sur Instagram parce qu'elle est écœurante. Moi, je l'adore. Genre, c'est comme... Oh, you
Là, je pense en cherchant Coffee Queen un peu partout sur les médias sociaux, ils vont la trouver.
C'est ça. Puis elle fait de l'excellent café aussi maintenant pour la maison.
Ben ouais.
Donc, c'est ça. Puis là, quand c'est arrivé, tu étais on the edge. Puis là, tu es arrivé avec une solution pour monsieur et madame tout le monde en dedans quasiment d'une semaine, même pas.
Ben, je veux dire la vérité, entre le moment où j'ai décidé que j'allais faire un e-com, puis j'avais un sac de café sur mon site à vendre. transactionnel, il y a environ... On va mettre 8 à 12 heures, si on fait couler, là. Puis là-dedans, on a dormi, tu sais. Fait que...
J'aime ça.
On l'a fait vraiment vite. Mais tu sais, quand je dis « on », les gens me disent « ah, ben là, t'as pas 18 employés. » Bon, je le sais. Quand je dis « on », je parle des gens, des partenaires d'affaires avec qui je travaille, ouais, avec qui j'échange. Exactement. Parce que j'ai pas fait ça tout seul dans mon salon où on m'a torréfié du café, l'emballé, le shipper, OK? Fait que l'ensemble des acteurs qui évoluent normalement avec moi dans ma business, ben c'est ces gens-là qui ont répondu à l'appel, même si eux aussi, ils ont vécu le même choc que moi, les mêmes difficultés, la même perte de clientèle. Quand moi, j'ai fait comme « aïe, il faut que je mette ça en ligne », tout le monde a répondu à l'appel avec une efficacité, une rapidité vraiment ridicule. Ce qui fait que j'ai réussi à mettre mon premier mot de sac de café en vente en ligne comme du jour au lendemain.
Wow, oui. Ça, c'est fantastique. Ça, j'aime tellement ça. Puis ça me fait penser un peu à l'histoire de comment on a démarré Néomédia Agence Marketing Web. Dans le fond, c'est qu'avant de partir l'agence en tant que telle, moi puis Josiane, on faisait de la consultation et puis on travaillait, faire une très longue histoire. On se racontera une autre fois, justement, l'histoire complète, parce que c'est une méchante longue histoire, mais très longue histoire courte. On avait un client qu'on avait dans un contrat annuel, une grosse compagnie aux États-Unis, un contrat annuel avec dans les gros 6 chiffres pour avoir Josiane et moi pour les aider. Puis ça allait bien, c'était génial, c'était fantastique, c'était formidable. Et puis, le deal, c'est que dans le fond, ils nous payaient à la fin de l'année, mais c'était, on avait une entente contractuelle et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis finalement, il est arrivé un paquet de successions d'événements. Ils ont eu des troubles financiers et puis on n'a jamais été payé. Mais nous, dans notre tête, c'était comme « c'est garanti, on est payé à telle date et telle date, comme des méga gros montants. On est bien, on rit, puis on a du fun. » Et puis, c'était un peu notre monde au complet s'était écroulé.
Oui.
Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a besoin de se retourner vite. Voilà dans quoi on est bon. On va faire plus que juste de la consultation, parce que, tu sais, pour retrouver les clients de simples consultations qui vont nous faire vivre comme on le veut, ça peut prendre des mois, des années. Puis on ne veut pas travailler avec n'importe qui, mais on peut bien vivre en consolidant le fait que plutôt que de référer constamment à gauche et à droite nos clients pour tel ou tel service, on pourrait nous-mêmes les gérer. On pourrait nous-mêmes devenir les foremen de nos propres chantiers. Et puis finalement, ben c'est ça qui est arrivé. Puis c'est de là qu'est né justement Néomédia Agence Marketing Web dans l'adversité et puis dans un creux où que littéralement, ouais, on avait besoin de payer notre loyer genre une semaine plus tard, là, c'était grave.
Mais c'est, on dirait qu'on a cette force-là, les entrepreneurs, puis je sais pas si tu es d'accord avec ça, à se réinventer du jour au lendemain et justement d'y aller, tu sais, comme avec l'impulsion.
Oui! Ben oui, absolument. Ben moi, je vis dans l'action, là, c'est ça, oui, qui me motive, c'est ça qui me... T'sais, je donne une idée de l'action, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais t'avais déjà du café à vendre. » Fait que dans le fond, t'as juste fait un Shopify et tu l'as crissé sur tout. Bon. La vraie histoire, c'est qu'en réalité, moi, mon café, il vient sous forme de EcoPod qui va juste dans mes machines. C'est une grosse machine à café qui a plusieurs milliers de dollars pour un usage commercial dans des gros bureaux. Fait que mon café va juste dans mes machines. Fait que moi, mon café, là, le gros stock, le 40 pieds, le container de 40 pieds qui vient d'arriver... Genre, là, 2 semaines d'Italie qui est partie une journée avant que l'Italie ferme. OK, là, ce container-là, wow, je peux pas le vendre à personne parce que personne n'a des machines à la maison. Fait que moi, il a fallu que je demande à un compétiteur de me roaster un blend de café puis de le mettre dans des sacs avec mon étiquette dessus le plus vite possible.
On t'sais. En a un, on en a deux. On en a même deux ici, justement, à côté de
nous. Il en reste la moitié d'un, juste... même pas. Il en reste pas plus le coup. Puis là, on a reçu l'autre ce matin.
Ah ouais.
Puis, tu sais, genre, vraiment, ton blend...
Il est génial.
Yeah!
Fait que ton compétiteur a bien travaillé avec toi. Hein? Justement... Il est pas en train de nous empoisonner.
Non, ben, c'est la force... La force du réseau, ça, je disais tantôt, des gens qui ont vraiment répondu présent à l'appel. Mais c'est sûr que j'ai dit que j'allais dire à tout le monde, c'était qui, là, qui allait faire mon café, il ne peut pas être mauvais, là, tu sais. Fait que, non, mais blague à part, j'ai créé des relations qui sont vraiment belles, puis qui me permettaient, tu sais, ça pour dire que avoir des relations, ça me permet de vivre dans l'action. Fait que quand j'ai un projet, j'ai tout de suite une personne à appeler.
Exactement.
Avec qui je sais que je peux avoir une première étape qui va se faire pour que le projet aille de l'avant. Fait que je suis tout le temps dans l'action, puis être dans l'action, c'est ça qui permet de virer de bord rapidement. J'y ai pas pensé de quoi.
C'est drôle parce que qu'est-ce que tu dis là, c'est en ce moment, tout ce que j'ai fait cette semaine, c'était...
De l'action.
Dans l'action, mais tu sais, un genre de connecteur dans le sens comme, OK, t'as besoin de ça, j'appelle ma personne qui fait ça, j'appelle ma personne qui fait ça, je connecte lui avec lui, avec lui. Puis c'est tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé non-stop, mais dans le fond, j'ai pas... Tu sais, on a développé des sites web, j'ai pas personnellement codé une ligne de code, oui, une pour dépanner une place, mais j'ai pas codé une ligne de code, j'ai connecté le programmeur avec le graphiste, avec le gars qui s'occupait des serveurs, avec l'autre qui faisait ci, puis ça, puis ci, puis le client, puis les mettre en appel conférence. Je veux dire, je me sentais quasiment comme, tu sais, dans l'ancien temps, là, les call centers là, des années 30, là, avec les genres de trucs de téléphone. Genre...
Téléphoniste.
Hey, Cable Girl, genre, la
souris. Oui, oui!
J'ai vu peut-être le premier épisode, mais c'était vraiment ça, tu sais.
C'est vraiment bon, écoute.
C'est ça, tu sais, clac, 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 voilà.
C'est exactement ça, puis tu sais... Puis souvent, c'est le fun, là, l'idéalisation. Les gens sont comme, ah, j'ai des idées, mais ils restent bloqués. À... Je veux dire, moi, tu sais, pour vrai, il est lettre, mon sac, là, mon logo, il est taché, on va se le dire. Là, je le sais, là, pas.
Ah, j'aime le fait qu'il soit comme en papier brun. Pour vrai, j'aime ouais. ça.
Bon, ouais, ça, c'est cool. Mais tu sais, pas une belle étiquette. Mais je me suis dit, le gars qui me fait mon café, il va me roaster demain matin. Il a besoin d'une étiquette tout de suite. Il est 10h30 le soir. Je frappe-tu le loup, puis je suis pogné, il va attendre une semaine de plus pour avoir du café, ou j'y envoie une étiquette que je fais tout de suite sur Canva, tu sais, le plus vite possible, ouais, avec son bien, tu sais. Ben, j'ai envoyé
ça pour rien, mais
mine de rien, on a vendu du café, même si l'étiquette est lettre.
C'est vrai, c'est en affaires, il y a une quote, une citation qu'on entend souvent, qui est si tu attends que tout soit parfait, tu ne vas jamais faire de move, tu ne vas jamais bouger, tu ne vas jamais prendre d'action parce qu'il n'y aura jamais le contexte où tout est parfait. Là. Il va toujours avoir au moins un 5, 10, 15, 20 % de chaos. Là. Moi, je ne suis pas capable de voir un monde parfait. Puis je pense que dans un monde parfait, je serais triste.
Non, je comprends.
Je pense que c'est vraiment de bouger puis de bouger vite. Puis en ce moment, tu sais, ceux qui vont bien s'adapter, justement, c'est ceux qui vont avoir bougé vite comme toi. Puis, on en parlait un petit peu aussi, tu sais, cette semaine, en message. Tu sais, tu disais comme là, ben, tu sais, moi, j'ai une entreprise, mais tu sais, t'es pas rendu au point d'acheter la grosse machine. Puis, on les regardait, puis ça nous fatiguait. Puis là, tu sais, je t'écrivais une fois de temps en temps, là, un jour, là, je te promets, je vais acheter la grosse machine, là, je te le promets, là, tu sais, genre,
c'est quand... On boit beaucoup de café à la maison, par exemple.
C'est ça, peut-être industriel, on s'en reparlera après le confinement.
C'est
ça, tu sais, puis on a un garde-robe comme bureau à Montréal, là, tu sais, on a un pied à Montréal, où est-ce que c'est un garde-robe, là?
Avec des salles de meeting.
Avec des salles de meeting, parce que c'est un espace de... C'est pas un espace de coworking, mais tu sais, c'est
une place d'affaires,
ouais. Tu sais, vraiment.
Okay.
En
passant, gros shout-out à eux, le 1188 Union, c'est génial. Oui. Si vous avez une entreprise que vous cherchez, en passant, c'est pas
sponsorisé. Ils fournissent pas le café, par exemple, fait que c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une machine à café.
Ils sont super sympathiques. Le staff est génial. On en avait visité d'autres places d'affaires à Montréal.
Oui.
Et puis eux, on a trippé sur le staff, on a trippé sur la place. Et puis le fait de dire qu'on a un pied à terre à Montréal, c'est des peanuts.
Exactement,
pour avoir une adresse corporative.
Café.
C'est vraiment
je vais revenir au café. Fait que tu sais, genre, c'est ça. Mais moi, quand le staff est sorti, je vais être comme, oh yeah, c'est ça que je veux. Tu sais, l'avoir, goûter le produit, goûter, tu sais, comment le processus de shipping. Hey, 24-48 heures, il est chez nous. Je capote. Je capote. C'est quasiment aussi vite qu'Amazon. Je sais pas comment tu fais, mais c'est aussi vite qu'Amazon. La magie.
La magie!
Tu sais, pour vrai, tu sais, ça a été comme... Puis là, je te l'ai dit, regarde, là. Je considérais déjà, par ta personnalité et tout, acheter le produit. Mais ça t'amène aussi des clients qui là, ils sont un petit peu plus dans le processus pour quand ils vont faire le move.
Avec,
tu dois le voir.
Avec ton branding et puis toute la force qui est autour de ton nom, puis qu'est-ce que tu es en train de créer à faire des apparences partout comme tu le fais en ce moment, je pense qu'un à regarder qui est tellement une histoire de succès en ce moment avec son e-com, c'est François Lambert. Tu devrais faire pareil, des packages ou que ton livre, un planner,
des produits de package.
Non-stop. Je te le dis, cette semaine, j'avais des œillères, je fonçais, j'étais sur le téléphone de 8 heures pile jusqu'à... Hier, j'ai fini mes téléphones à 2 heures du matin. J'envoyais des emails. Le monde qui m'envoyait des emails dans la nuit, je fais « What the fuck, sont fous? » Puis je réponds tout de suite. Puis eux disent « Il est fou! » Fait que non, c'est ça.
Mais tu sais, pour ton idée de package, là, En réalité, moi, en ce moment, ce que je suis en train de chercher, c'est de la merch cool pour mettre là-dessus. Ah, mais pas nice. Juste de la merch cool, mais de la merch que je vais éventuellement pouvoir slapper mon logo dessus.
Ben, c'est tellement facile. Puis il y a une belle compagnie à Montréal qui fait ça et qui l'a déjà fait.
Oui, ben, ma fille, elle a son petit e-com pour la grande journée des petits entrepreneurs qui va être annulée cette année, mais on va y quand même faire sa journée à elle. Et c'est avec eux autres, c'est Art of Wear.
OK. Ouais. Cool. Ouais.
Ils font ça, puis ils ont même un app qui connecte directement
avec Shopify.
Avec Shopify, fait que les gens passeraient, ça s'appelle du print on demand, le modèle d'affaires, de sûrement que j'ai entendu ça. En gros, les gens passent une commande, puis la commande passe à travers ton site, toi t'es payé, mais automatiquement, la commande est passée chez eux. Fait qu'eux autres, ils le print on demand en même temps que la commande est passée sur ton site. Bon, c'est...
Ouais.
Anyway, j'expliquais dans un autre contexte.
Mais c'est ça, fait que,
mais le processus est automatisé.
Oui. Donc, tu sais, ça peut être quelque chose. Mais moi, je le vois très bien, là, tu sais, parce qu'il y a comme le hashtag Coffee Gang, il y a le hashtag...
C'est une communauté. Mon but, c'est de créer une communauté de gens qui sont entrepreneurs, qui veulent être entrepreneurs, qui sont juste entrepreneurs, puis qui ont des affaires à échanger. Puis, tu sais, la Coffee Gang, là, le monde, ils sont comme, ouais, même si t'aimes pas le café, la Coffee Gang, c'est l'esprit entrepreneurial.
Oui.
Ouais.
Tu sais, fait que moi, j'ai.
Il y a du thé aussi sur ton site.
Oui, il y a du thé. Vous avez les plus beaux thés au monde. Je les adore. C'est un de mes amis qui est. Propriétaire de l'entreprise, puis c'est du thé, c'est une entreprise marocaine, puis c'est sa famille, puis c'est vraiment très fort, puis son pot, puis son bon. Mais ouais, le thé est vraiment hot. Fait que, tu sais, le but, c'est d'amener le. Là, dans le fond, mais là, je peux pas. Ok, je vais le dire tout de suite parce que je vais le sortir. Mon but, c'est de sortir un kit à cappuccino pour la maison qui va coûter en bas de 120$. Ou est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour faire des cappuccinos à la maison? Puis là, il y a une série de vidéos qui va aller avec ça, puis que le café, il est donc bien beau, parce que. Moi, je me suis rendu compte que tout le monde qui n'a pas de machine à espresso fancy à la maison ne peut pas vraiment se faire de cappuccino à la maison. Ou ils ont plein d'affaires disparates et ça fait pas partie de leur rituel juste parce que ils ne veulent pas mettre 800$ ou 1000$ sur une machine à espresso. Fait que là, tout le monde est à la maison. Personne n'a envie de dépenser 1000$ pour une machine à café, mais tu as donc bien besoin de ton cappuccino parce que ton café du coin, il est fermé. Moi, j'ai une solution pour toi. Tu sais que c'est un peu cette... On revient à la source un peu. Tu sais, comme j'en reviens à la source du café, avec un profil de goût qui va super bien avec le lait, mais qui n'est pas trop amer. Tu n'es pas obligé d'être un expert pour l'aimer. C'est ça que je voulais pas. Moi, je voulais un café que chaque personne pouvait goûter et dire « Hey, il est bon ce café-là, je vais le boire demain. » Pas juste le snobinard un peu qui tripe dessus. Ça, je voulais pas faire ça.
Ben ouais, vraiment. C'est une belle opportunité que tu prends là, puis pendant que les autres ont des structures trop lourdes pour pivoter comme tu le fais en ce moment, c'est tellement une belle fenêtre d'opportunité. Fait que non, vraiment, ça, c'est cool. Puis de faire ce que tu le fais sur le web, de bouger vite, de pas attendre que tout soit trop parfait, c'est tellement la meilleure des choses à faire.
C'est dans une bonne position.
Et puis, un autre, justement, sujet qu'on avait mentionné, qu'on t'a présenté. Et puis, vraiment... Tu es excellente à bâtir des relations d'affaires avec tout le monde, partout. Comment tu fais? Ce serait quoi les trucs que tu donnerais aux gens pour être autant connecté et puis être partout comme tu le fais en ce moment?
Ben, OK. Pour de vrai, ça va peut-être sembler niaiseux, là, mais mon truc, c'est d'être vraiment connecté avec tes propres valeurs puis d'identifier vraiment vite les entreprises et les gens qui ont des valeurs similaires ou pas. Fait que moi, dès que je commence une conversation avec quelqu'un ou dans un réseau d'affaires X ou Y avec des gens qui ont des choses en commun, je me pose la question, est-ce que nos valeurs commerciales et humaines, puis là, ça dépend, là, des fois, c'est juste les valeurs commerciales, puis le reste, je m'en fous, est-ce que mes valeurs commerciales sont en lien avec ces gens-là? Puis, en étant capable d'identifier ces choses-là très rapidement, je peux choisir où est-ce que je vais mettre mes efforts de communication pour créer des relations ou pas. Puis, type comme par exemple, quand je parle de valeurs de business, de valeurs commerciales, bon, ben moi, je veux vraiment travailler avec des gens qui me font un fair price. Puis un fair price, ça ne veut pas dire le prix le moins cher. Ça veut dire un prix qui reflète la qualité de ce que j'achète. J'ai besoin de gens qui fournissent des choses qui ont une qualité qui est constante. J'ai pas besoin d'aller checker à chaque fois. Ça, c'est une de mes valeurs commerciales très fortes. Des gens qui ont une valeur de service à la clientèle. Des gens qui ont une valeur de communication qui sont... Je veux dire, passe pas mon temps à jaser avec du monde qui sont pas capables de communiquer avec un niveau d'un certain sérieux ou qui ont une éthique de travail qui est pas irréprochable selon moi, même mon opinion, right? Fait que c'est comme ça que je bâtis les relations. J'identifie les valeurs commerciales des gens, puis je mets uniquement des efforts là où j'ai des valeurs qui se rapprochent aux miennes.
Totalement d'accord. Puis ça me fait penser, puis ça me fait déborder sur un autre sujet, mais similaire, qui est, toi, où est-ce que tu penses que le monde des affaires, du moins au Québec, s'en va? Parce qu'on parle qu'on va de plus en plus acheter local et puis être dans notre réseau, ou qu'après la crise, on va continuer à être international. Et puis moi, je dirais, à propos de ça, je suis séparé dans le sens que j'aime faire affaire locale, mais j'aime l'idée de pouvoir faire affaire facilement, aisément, partout dans le monde. Est-ce que tu te vois, dans ton cas, devenir super, mettons, numéro un de chez numéro un dans ton espace géographique niche, mettons, la province, on va dire, ou tu te vois être mondial, global, partout dans le monde, puis être big?
Écoute, moi, je suis une fille patiente. T'as deux, j'ai des grandes ambitions, mais j'ai pas l'ambition de me dire que je suis une multinationale qui fait 150 millions de choses à faire ou 75 millions, peu importe. J'ai l'impression que c'est comme un peu une espèce de lavage de cerveau, là, où dès qu'on starte une entreprise et qu'on passe par les canaux réguliers de formation d'entrepreneurs à la HEC, je suis un produit d'HEC, là, fait que je suis très favorable, mais en même temps, il y a du brainwash un peu dans la stratégie puis la culture de croissance. Mais on dit tout le temps aux gens, si t'as pas l'optique de vendre aux États-Unis, oublie ça, c'est de la merde, ton entreprise. On est juste 7 millions au Québec, c'est bien trop petit, il n'y a pas assez de francophones, tu dois t'en aller ailleurs. Ben, je sais pas.
Quelque moi, chose, ça... me semble, j'ai déjà dit ça quasiment mot pour mot la semaine passée.
Je t'ai pas écouté la semaine passée, mais... C'est une philosophie que moi, je trouve un petit peu toxique parce qu'en réalité, on peut-tu commencer à penser à comment rejoindre les gens? Ben pour moi, mon idée, c'est que je vais commencer à rejoindre des bureaux à Montréal et dans les environs. Je vais en faire un... Je ne suis pas une compagnie tech, là. J'ai pas un POS système. Pourquoi je me garoche le plus vite possible sur le marché mondial, partout? Là. Tu sais, si ce n'est pas une compagnie tech avec un software qui va se faire copier parce que tu n'as pas des API et qu'il faut que ton MVP soit sorti le plus vite possible, ben commence donc à satisfaire le monde autour de toi, les entreprises qui sont les clientèles qui sont là de façon régionale, puis après ça, crois. Tu sais, moi, je vais y aller en Ontario, mais je vais attendre d'avoir une position beaucoup plus solide à Québec, au Québec, Montréal, aux environs.
Fait que t'es d'accord à condition qu'on y aille brique par brique et puis qu'on le fasse de manière solide plutôt que d'un coup...
C'est ça l'affaire, manière solide, tu sais, c'est vraiment ça mon mantra à moi, c'est manière solide, parce que moi j'aime ça, chaque fois que je fais un pas par en avant, pour risquer d'en faire 8 par en arrière, ça c'est ma grande tourisme à moi, mais c'est pas une grosse compagnie de tech, là, ben, une petite compagnie en tech, une technologie qui doit vraiment arriver en premier sur le marché puis dominer tout le monde le plus vite possible, ben... Je suis pas dans cette espèce de mentalité.
Mais j'aime le point que tu viens d'arriver là parce que c'est très contextuel. Puis comme je disais un peu quand j'expliquais, moi, je suis très séparé sur cette question-là parce que dans certains cas, je suis à l'international, le plus gros, le plus vite possible, c'est important. Puis dans d'autres cas, je suis comme, mais non, cette idée-là est parfaite pour le marché local puis devenir grand. Fait que, comme tu dis, je pense que c'est vraiment une question de contexte, la condition que tu fasses la bonne chose avec le bon contexte, tu te trompes pas. Et puis, je pense que c'est de pas virer dans des idées trop, trop politiques ou personnelles. Parce que ça, souvent, on le voit souvent. Puis on a vu un client, ça nous a fait tellement peine, un client, je sens qu'on avait aidé à lancer sa marque, ça avait fonctionné super bien, mais son concept ne pouvait pas marcher simplement au Québec parce que c'est un concept où est-ce qu'il devait aller toucher la masse, mais une masse énorme. Et puis, on avait justement tout développé un gros système de e-commerce avec un paquet d'automation. C'était incroyable. Il y avait un potentiel énorme. On avait commencé justement à faire du marketing à l'international. Il y avait des bons résultats.
Il s'est fié à son beau-frère.
Un moment donné, son beau-frère est arrivé puis il a dit « T'es au Québec ici ». Puis il nous a appelé, il a dit « Mon beau-frère m'a parlé. Il m'a dit qu'on est au Québec ici. » Fait que là, on va tout mettre en français. On va enlever le site bilingue. Anyway... en tout cas, je capotais, j'étais comme « Sérieux, ça marche, t'as des ventes, ça roule! » Puis il était comme « Non, non, mais c'est parce qu'on est au Québec, puis tu sais, nos valeurs, puis là, il me faisait genre le speech séparatiste, j'étais comme « Non, tu me niaises, là, ça marche, ton affaire! » Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est important de pas corrompre nos idées et nos actions par justement
des facteurs
personnels ou politiques.
Je pense qu'en réalité, tu sais, c'est toute une question de cohérence, right? Tu sais, si son produit s'adapte mieux à un marché anglophone, que nanana, tu sais, je veux dire, c'est clair que c'est ça. Mais tu sais, si on parle de vente en ligne, de commerce en ligne, que tu peux vendre quelque chose puis shipper partout dans le monde, ben amuse-toi à vendre ça partout dans le monde, pas la même affaire. Mais quand je pense à des entreprises qui sont un petit peu plus lourdes opérationnellement que du dropshipping, par exemple, avec du e-commerce, pas pour dire que c'est simple, mais pour dire que, tu sais, c'est pas compliqué pour moi de commencer à shipper du café en Ontario. Pas compliqué, là, je trouve une section dans Shopify, j'appelle mon transporteur, gère la section taxe puis de shipping delivery, puis ça finit là. Mais de vendre des machines à café dans des bureaux à l'extérieur de la province, il faut aller maintenir, puis donc une entreprise qui opérationnellement est plus lourde, de s'éparpiller sur un territoire géographique,
ça devient difficile. Exactement. Comme dernièrement, on a travaillé avec des restaurants, des boulangeries, puis des pâtisseries à s'établir sur le web. Et puis, c'est tellement le fun. Eux, justement, leur marché, c'est local de chez local. Mais c'est tellement le fun de pouvoir faire ça, puis de voir que les gens de leur quartier embarquent, puis que les gens de leur quartier les appellent pour dire « c'est hot, c'est le fun, c'est dynamique ». Ça, je suis tellement content de pouvoir faire ça, puis de pouvoir faire partie de ce changement-là.
C'est vrai, ça. Puis, tu sais, toi aussi, tu vas être un peu comme dans cette situation-là. Tu sais, comme on parlait, tu sais, justement, tu sais, là, la consommatrice de café qui a besoin de son café, qui te suit sur les réseaux sociaux, mais ça s'avère que c'est aussi un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Oui. Ben, tu sais, ils vont commencer, tu sais, entre parenthèses, à boire ton Kool-Aid. C'est pas ton Kool-Aid, mais ton café, plutôt.
Maman,
tu sais, genre, faire comme, je fais partie du coffee gang.
Ouais.
Si vous achetez de café, vous pouvez pas. Non, non.
Non, mais tu sais, c'est ça l'objectif. Tu sais, tantôt, Simon, tu me demandais, écoute, est-ce que les gens vont continuer à acheter local? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui me tient à cœur. C'est pas nécessairement la provenance des choses, mais c'est du type d'entreprise duquel ça vient. Je donne un exemple. Moi, je fais affaire avec une entreprise en Italie pour mes copotes de café. Fait que c'est une entreprise familiale, artisanale, établie à Naples depuis 1922. C'est bon comme toi et moi, là. Ils ont des enfants, ils travaillent fort, c'est à leur père, c'est un leg familial. Il y a de l'amour dans ce café-là, ça n'a pas de bon sens. Je m'en fous que ça vienne du fin fond de l'Italie, tu comprends? C'est une entreprise familiale avec des gens avec qui on a des valeurs qui se rejoignent. Puis quand je leur donne de l'argent et qu'ils m'envoient du stock, je sais qu'il y a deux familles qui vont vivre de ça. OK? Ouais. Ça, je trippe, je m'en fous d'où est-ce que ça vient. Moi, ce que j'aime pas, c'est les multinationales comparées aux petits joueurs locaux.
Ah, ouais. ça, c'est dur. Ça, on voit ça souvent.
Ça me fait chier. Puis on est tout le temps, on expecte de nous d'avoir, qui ont des produits similaires. Par exemple, moi puis Nespresso. Nespresso commercial, moi, je suis dans leur plate-bande. Mon but, c'est ça, c'est multinational, je veux dire, on s'entend, je ne vais pas leur voler, je ne me fais pas de division, là, c'est David et Goliath, là. Mais quand je rentre dans un bureau, il y a du Nespresso, ils payent un montant que moi, je vends mes affaires pas mal le même prix qu'eux autres. Je suis pas moins cher, mais j'amène une valeur qui est différente. Puis qu'on me dit, ben là, tu n'es pas moins cher, on ne va pas faire le switch, ça me fait chier. L'homme-là, je veux dire, c'est poche, je trouve ça poche. Pourquoi, je veux dire, ces gens-là, c'est multinational, ils sont ultra riches, ils s'en foutent de toi, puis t'es un petit client pour lui, mais un client qui va être important pour moi, je suis impliquée dans... Tu sais, fait que moi, ce que j'espère, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai des dizaines d'amis qui, comme moi, se battent contre des... J'ai un ami, là, Bastien Cola 742, qui se bat journée longue contre Coca-Cola, puis qui a de la misère à avoir de la place sur ses tablettes d'épicerie, je veux dire, non, mais faut le faire, là!
On le voit même à la SAQ. Moi, j'ai rencontré une femme fantastique, Annick Patry, des Jardins d'Emmanuel. Ils font du Porto et des cidres. C'est écœurant qu'est-ce qu'ils font comme boisson. Ils sont capables de rentrer le cidre à la SAQ, mais pas le Porto. On n'a pas de Porto made in Québec, là. Tu sais, on l'a. Mais il n'est pas là.
c'est exactement le genre d'exemple où est-ce que je me dis que on devrait, c'était un petit peu interventionniste là-dessus. Là, moi, j'aurais pas de honte à avoir une intervention gouvernementale par rapport au stimuli de travailler avec des entreprises d'ici. Puis je pense que le plus important, par exemple, c'est les mentalités des gens. Tant que les grands donneurs d'ordre, tant que les acheteurs des grandes chaînes décide pas de travailler avec des entreprises locales au lieu de travailler avec des multinationales, ben on ira nulle part. Tu sais, je pense aux grandes chaînes de restaurants qui choisissent pas des fournisseurs locaux. Je pense aux grandes chaînes de grands cabinets de bureaux qui ont des bureaux pan-canadiens qui vont automatiquement avec les grands fournisseurs multinationales. Puis c'est pas juste dans le café, là, c'est dans les breuvages, c'est dans le thé, c'est dans tout. Fait que j'espère uniquement que ça va créer une espèce de conscience où est-ce que hey, il y a quelqu'un d'ici qui le fait, ça devrait avoir des points de plus, ça, dans l'offre de service qui est venue à prix égal ou même à prix majoré, tu sais. Il devrait avoir quelque
chose. Tellement. Puis ça me fait penser à un scénario qu'on a vécu juste un petit peu avant la crise. Justement, on se missionnait sur un gros projet, là, gros, très, très gros chemin avec, on peut dire, une multinationale. Puis je pense même qu'ils sont présents en bourse, vraiment. En tout cas, quelques grosses multinationales. Puis ça allait bien. Puis on était justement premier et deuxième dans le processus qu'ils nous disaient. Et puis à la fin, le point qui était rendu à la discussion, c'est: vous avez tout. Vous avez prouvé dans le processus que vous avez des meilleures compétences. Vous avez un meilleur plan. Vous avez des meilleures idées. Votre exécution est à peu près 5 à 10 fois plus rapide que les autres. C'est vraiment hot. Vous nous faites capoter ce que vous nous avez démontré depuis le début du processus. Vous avez fait capoter. Mais le problème, c'est qu'il faut bien paraître aux yeux des actionnaires. Puis voilà. Les actionnaires, ben, ils savent pas vous êtes qui. Mais si on va avec la grosse agence générique internationale, on va garder notre job. Fait que là, on est comme, on le sait, il nous dit, on le sait que vous faites une meilleure job, puis on est capable de le prouver. Je fais, mais là, qu'est-ce qui manque, tu sais? Puis ça, on l'a vécu 2-3 fois, justement. Puis je pense que la crise va faire changer un peu les choses, mais il y a juste ça, le futur, qui va pouvoir nous le dire.
Non, mais j'espère que ça va changer quelque chose. Je trouve ça aberrant. Moi, j'en ai une chaîne de restaurants comme ça. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, écoute, on a des problèmes. Moi, dans le fond, pour les chaînes de restaurants, moi, je suis un outil de standardisation. Là. Tu veux du bon café tout le temps, tu ne veux pas former ton staff, c'est moi qui ai la solution. C'est moi mon espresso avec sa belle machine à 30 000, puis je te le dis combien il ne coûte pas 30 000. Fait que tu sais, j'ai une chaîne de restaurants qui viennent me voir. Des gens dans mon réseau, on se rend compte, je sais quoi vos problèmes. Ah, oh, le staff, ah, oh, il n'y a pas de créma, le café n'est jamais tout le temps pareil. Oh, on a de la misère à nettoyer nos machines. Ah, oh, la mouture est toujours déréglée. Nos moulins, les scies, il n'y a pas d'espace. Wow, t'es en train de me dire que c'est moi la solution parfaite pour ton fucking restaurant. Rencontre un boss, rencontre l'autre boss. Meeting général, toutes des vieux ethniques, là. Regarde, moi, je suis bien ethnique. Hein?
Oui.
Je suis extrêmement ethnique, là, mais des quinquagénaires ethniques, ça n'achète pas d'une jeune petite fille avec les cheveux frisés.
Oui, son vie,
tu sais, je te comprends. Fait que quand on voit que c'est un vieux ethnique, on envoie lui.
Non, mais on a la solution. Christina.
Oui, Christina aussi. Ouais. Fait que ça, c'est... Ouais.
Fait que tu sais, c'est, la vente est comme pas faite, mais on, tout le monde le sait qu'ils en ont besoin de la solution. Puis là, finalement, quand ils ont dit non, ils ont dit « OK, c'est correct, mais pourquoi? » Disons, finalement, on est allé avec Ellie parce que toi, Dinapoli, c'est pas un brand, personne connaît ton brand, c'est pas un brand que tout le monde reconnaît, puis on veut que la marque de café attire les gens à l'intérieur.
Mais là, attends, le Pocoyo, personne connaît ton brand, voyons donc, tout le monde connaît ton brand!
Ben non, un! Ah,
c'est pas sur Instagram!
Tu sais, ici, on connaît un peu mon brand, je Ellie, là, fait 100 ans, Chris, qui vend du café, là, je veux dire, on s'entend-tu, là, c'est la marque, OK, fine! Mais toi, tu attires un client dans ton restaurant, okay? Parce qu'il y a du bon café, ça pancarte en avant, mais ton staff n'est pas capable de faire un espresso avec de la crème ou de mousser du lait sans le brûler.
C'est comme essentiel un peu.
Slow clap. Je veux dire, OK, fine.
Exact. Mais
oui.
Ça, j'espère que ça va changer.
La prochaine fois que justement quelqu'un comme ça te dit justement que t'es pas assez bonne, t'as pas assez d'expérience, puis que personne te connaît, tu répondras juste « OK, boomer ». Je pense que l'expression...
Ce matin, j'en ai donné un à quelqu'un, là. Il m'a dit « Ah, quand tu grandiras, tu verras que ça vaut la peine, de speech patriarcal. » J'ai dit « OK, Gandalf ».
Ouais! C'était bon, ça! OK, Gandalf! Ça, c'est la version 2000.
C'est la version... OK, toi, t'es plus que boomer! All right! Don't worry about it!
C'est bon. Puis sinon, comment tu vois le futur après la crise? Comment tu penses que les choses vont changer? Puis est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va sortir de chez nous bientôt? C'est quoi, toi, ton forecast? C'est quoi les prévisions, là, d'après-crise?
Ouais, je vais dire la vérité, les seuls podcasts que je regarde sont les ventes en ligne. Ok, moi, tu parles de ta semaine que tu avais des œillères, là. Moi, j'ai des œillères par rapport à toutes ces histoires-là. Il y a un virus, on a des officiels gouvernementaux qui vont nous dire quand est-ce qu'on va fucking sortir de la maison. Moi, je reste chez nous et je vais en te faire en ligne. Ok, toutes les autres prévisions. That's it. That's it. Oui, sur mes maudits ads sur Instagram et Facebook.
That's it.
N'était pas.
Ben, je te demandais, ben, je me disais peut-être que tu voyais un petit peu différent de nous autres parce que nous, c'est notre style de vie depuis des années. Moi, ça n'a rien changé, la crise.
C'est vrai?
C'est un peu selfish de dire ça, mais même que ça m'arrange un peu parce que ça m'évite beaucoup de meetings inutiles. On est plus productif et on fait plus d'argent. Fait que moi, je suis comme correct.
Ah, c'est quand même cool.
Ouais.
Moi, je suis quand même assez une bébête sociale. J'aime ça sortir avec mes chums, puis les 5 à 7, puis les terrasses, je suis bien excitée.
C'est vrai c'est moi aussi. Là, les puis tu commences à faire beau.
Je veux un spritz sur une terrasse.
Oui, un espresso martini. Mais là, je vais m'y faire avec les 20 bons produits.
Ben ouais. Ah, s'il vous plaît! Fait que bref, non, mais je pense que mois de septembre, ça devrait revenir un peu plus à la normale. Je pense pas qu'on va, je pense qu'on va passer l'été. Je pense que cet été, je vais être poignée pour refaire mon jardin parce que c'est le seul endroit où je vais pouvoir être dehors. C'est ça la réponse.
Ouais, je pense
c'est pas mal ça. Moi, je regarde le nôtre puis je fais
C'est ça, elle a une fenêtre là, puis on est comme moi. On regarde la fenêtre à droite.
D'habitude, on va dans les parcs, hein, vous autres aussi. Fait que moi, la cour, c'est le bordel. J'ai tout le temps dans les parcs. Je vais faire tout seul chez nous dans la cour en arrière. Là, cette année, la cour, j'ai ouais, quand elle est grande, hein, pour
dire,
c'est une grosse
course,
on va l'arranger.
Ouais, c'est à peu près ça.
C'est ça, exactement. Fait quoi, là, c'est ça. Puis vraiment, je pense que le futur va être bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être changées, beaucoup de choses de boomer qui n'avaient plus aucune logique aujourd'hui en 2020 qui commencent à donner de plus en plus de sens pour tout le monde. Que les gens appliquent, comme exemple, les conférences web, les vidéoconférences, ça donnait tellement de sens. Le commerce en ligne, ceux qui retardaient là-dessus ont pris action, je suis tellement content. Les médias de masse qui ont pris compte justement maintenant que le web prend une place énorme, vraiment, je suis content parce que ça force les choses à bouger et à aller de l'avant. Et puis ça, moi, c'est la lumière que je vois à travers l'adversité, c'est ce changement-là positif qu'on voit.
Et un autre changement positif, cette semaine, on n'a pas eu de Publisac!
Oui!
Y a-t-il du monde qui met encore de la pub dans les Publisac?
Oui.
C'est dégueulasse, je suis fâchée à chaque fois.
Ça, puis les enveloppes, là, les publics postages...
Je suis outrancée à chaque fois.
À chaque fois, je suis comme...
Mais le pire, c'est que Publisac, ça fait 3 fois que je remplis le petit form dégueulasse.
Pour qu'il arrête.
Et puis, il n'arrête jamais, puis il ne m'envoie jamais le sticker. Et puis,
mais c'est sûr qu'ils ne vont pas arrêter. Ces gens-là n'ont pas Internet. Ils doivent faire ça papier. Ton nom va dans une filière dédoublée sur 2 cartons.
Mais c'est ça, exactement. Non, mais je les envoie la dernière fois qu'il est dans leur... j'ai le droit de sacrer, là, c'est notre podcast. Dans l'estite form, il y avait une ligne qui s'appelait adresse. J'ai mis notre adresse pour qu'il m'envoie le sticker pour qu'il arrête de donner les Publisac. Et dans la form, j'ai rempli mon adresse. Et puis eux, ils me renvoient un email en disant ben, il faudrait peut-être que tu nous donnes ton adresse pour qu'on te l'envoie. Et puis dans l'email qu'ils m'ont renvoyé, tu vois la case adresse qui est remplie. Genre, je sais quand même, t'es vraiment con. Genre, il y a l'adresse dans le courriel où tu demandes mon adresse.
C'est très poche.
Tout est brisé.
Oh non, vraiment, là, des gens compétents chez Publisac, mais je pense qu'ils ne sont pas parlables, puis eux autres sont boqués sur le modèle d'affaires. On n'a pas essayé d'avoir une conversation avec ce monde-là, à un moment donné?
Moi, hier,
avec Pajon,
avec Pajon, c'est encore pire.
Hier, sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Ah, j'ai vu ton podcast. Puis là, elle me donne son numéro de téléphone. Elle dit, moi, je travaille pour la radio. Fait que, OK, tu sais, genre une espèce d'hameçon hook, genre pour faire croire à une genre d'entrevue, mais finalement, à vendre de la pub à la radio. Puis quand
j'ai commencé à
décrypter que c'était de la pub, qu'il fallait que j'achète de la pub à la radio, j'ai comme, mais tu penses qu'il y a quelqu'un qui va mettre de l'argent sur de la pub à la radio en ce moment? J'ai dit, oh my God, mais là, tu as du vis, c'est une autre planète.
Non, c'est ça.
Moi, t'sais, hier, quand j'ai dit, il y a quelqu'un qui voulait quelqu'un qui servirait sur un Discord pour bâtir son entreprise en ligne, j'ai pensé tout de suite à toi parce que, tu sais, vraiment, moi, je te suis, puis à chaque jour, genre, c'est comme.
Parlez de votre entrevue, justement. C'est quoi? J'étais pas là. Comme je dis, j'avais des œillères, fait que j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais raconte-moi ça.
Oui, en fait, de mon côté, on m'a demandé c'était quoi les bonnes pratiques un peu sur le web à établir, puis est-ce qu'il fallait avoir peur un petit peu des GAFA? Est-ce que le panier bleu, c'était une bonne solution?
est-ce que, tu sais, je vais vraiment répondre à ces questions-là? Et on m'a demandé avant l'entrevue si je connaissais quelqu'un qui, justement, avait changé son modèle d'affaires de A à Z. Et j'ai dit, ben, t'as Ina DiNapoli.
Donc, yeah!
C'est que ça, c'est avec Radio-Canada.
Oui. Nice. Donc, Taina, toi, ça ressemblait un petit peu à quoi l'entrevue par rapport
à ton... C'est parler de mon pivot du point A jusqu'au point B. Là, ben, en fait, du point A au point 1, parce qu'on on a changé de catégorie. Là. On est couvert en arabe, de gauche à droite, on vire de bord, on est en allemand, comme on n'a plus rapport. Là. On est complètement sur une autre planète. Donc, on est passé du point A au point 1. Fait que ça peut parler de ça, donc exactement, là, c'est ça. C'est ça.
Très nice. Vraiment... Et puis, oui. Changement de sujet. Si je ne me trompe pas, Taina, toi, tu avais été dans l'œil du dragon, c'est ça?
Oui!
Parle-nous donc de ton expérience. Il y a tellement de... Vraiment, on a travaillé avec un paquet de clients qui ont été...
Qui vont passer. On ne peut pas dire c'est qui. On a un NDA.
Mais parle-nous donc de ton expérience, parce que ça a l'air qu'on est... je ne veux pas dire l'officiel, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais j'ai l'impression que dans pas long, à côté de KPMG, au début de l'émission, il va y avoir Néomédia, Agence Marketing Web. Genre, vraiment, je suis fier parce qu'il y en a beaucoup là-bas avec qui qu'on travaille. Fait que, raconte-nous, toi, ça, comment était ton expérience? Comment tu as découvert ça? Puis c'était quoi l'effet pour toi?
Ben écoute, moi, j'ai été un peu avant que ce soit cool. En fait, c'est pas vrai. J'y étais avant que ça devienne trop cool, quand c'était encore cool d'y aller. Je sais pas si je m'explique. Quand je suis allée il y a 5 ans, c'était encore spécial d'y être allée. Là, maintenant, pour de vrai, moi, je rencontre une entreprise, je me dis, ah, tu sais, pas encore un petit coup de dragon. Tout le monde a comme la réaction quand t'as pas essayé d'y aller, t'es pas encore allé, c'est quand tu sors. Tout le monde y va, OK? C'est devenu l'affaire pour que tu y ailles. Quand moi, je suis allée, c'était pas... Puis le niveau est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'avant, là. C'est comme quand tu regardes la carte. Dans mon année, il y avait des gens exceptionnels, là, mais il y avait encore un peu de sensationnalisme parce qu'il y en avait des vraiment pas bons qui ne savaient pas chose binouche. Là. Bon, ouais. C'est un peu spécial. Ça a eu beaucoup d'impact sur ma notoriété, sur mes ventes. Ça a bien été. Moi, je conseille à tout le monde d'y aller. C'est une expérience fantastique. Ça a bien été à TV. Ça a moins bien été après. Comme pas mal
c'est
tout le monde
comme
en
ça,
réalité.
Exactement. Puis je pense que c'est un petit peu normal parce que tu veux faire un show, t'es à télé, tu veux mettre un hook sur l'opportunité, puis après tu verras si c'est réellement bon. J'imagine que c'est un peu ça. Là.
Ben, il y a ça. Ça m'a pris des années de comprendre pourquoi ça avait mal été pour moi, puis analyser pourquoi ça va mal pour beaucoup de personnes.
Mm-hmm.
C'est parce que, puis au début, j'étais frustrée de ça. Là, je me disais, ah, ils n'ont pas été gentils, c'est pas correct ça. Puis j'étais super fâchée de ça. Puis avec le temps, en côtoyant des gens qui sont des investisseurs, qui sont réellement des VC, puis en côtoyant des entreprises qui, pour de vrai, au lieu d'aller au dragon, genre, ils vont faire des rondes de financement avec Ange Québec, j'ai compris c'est quoi un fucking investisseur. Okay? Puis ça m'a pris des années de comprendre c'est quoi un business où est-ce que quelqu'un allait mettre de l'argent pour investir.
Mais illumine-nous!
Ben, je vous illumine tout de suite!
Vas-y, raconte-moi ça, ça nous intéresse.
Je l'adore.
OK, dans le fond, les dragons, il y a les dragons, on va prendre la différence entre les dragons en anglais et les dragons en français. Les dragons en anglais, ils investissent de l'argent, ils sont tous pas vraiment gentils, puis on sait qu'ils sont là pour faire de l'argent, si c'est le Canada anglais ou celui des States en chef. Il y en a dans l'anglais, c'est correct de vouloir faire de l'argent, c'est une gang d'investissement, c'est chill. Au Québec, on est des calinours, on aime ça les gens gentils, on n'aime pas ça les gens qui sont méchants à la télé.
Ouais.
Bon,
ouais.
Donc les dragons qui y vont adoptent souvent une attitude philanthropiste, d'amour, de recueil.
Mais en tout cas, moi, ça me fait chier. J'aime tellement mieux Shark Tank et Dragon's Den pour cette raison-là, j'ai l'impression que
c'est une joke
des fois.
Fait que, tu sais, dans le fond, bon, ben c'est ça. C'est parce que si tu prends une attitude philanthropique et tu dévoiles ton cœur au Québec comme étant quelqu'un qui veut aider les dons petits entrepreneurs se fleurir et se démarquer, mais qu'une fois que le show est fini puis que là, c'est l'heure de se rencontrer pour la première fois, t'agis comme si c'était un VC de Silicon Valley qui s'attendait à faire genre 12 fois son investissement en 4 ans. Il y a une dichotomie entre que moi, en tant qu'entrepreneur, je vois à la TV depuis des années de gens qui vont venir m'aider à faire fleurir ma business, puis qu'est-ce que c'est un investisseur pour vrai? Fait que moi, c'est pour ça que je suis une grande fan de François Lambert. Genre, tu t'attendais jamais à ce que François Lambert te prenne dans la ouate pour te dire t'es donc bien cute, t'es donc bien non. Tu mettais de l'argent sur toi, tu sais, comme ça que ça allait se passer, puis tu savais qu'après, ça serait pas une trolley de pelletée de rose, puis que ça allait être la plus belle vie de ta vie, puis que vous allez me donner des becs, puis si tu fais de l'argent, c'est pas grave. Non, mais tu sais, fait que c'est comme, moi, j'aime, je crois que ça va mal pour beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, comme moi, sont dans l'illusion que c'est un acte philanthropique alors que c'est
non,
un acte
financier.
Et j'aime les dragons qui sont financiers dans leur approche.
Oui, moi aussi! Je suis un gros fan de Kevin O'Leary. Personne n'aime ça quand je dis ça. J'ai lu tous ses livres, j'adore le gars, je suis sa chaîne YouTube. Mais quand je dis j'aime Kevin O'Leary, le monde fait « t'es donc bien méchant ». Non, c'est du bon contenu, c'est bon ce qu'il
dit. Mais c'est une histoire de cohérence! Donc, moi, j'aime les gens cohérents. Si t'es toute gentille et cute à la TV puis que tu veux aider des madames qui font de la courte pointe, puis qu'après, la madame...
Ton son...
T'es payé
parce qu'elle va pas avec 5 millions. Même pas. T'sais, c'est juste ça. Fait que moi, je pensais qu'ils allaient m'aider là-dedans. T'sais, moi, je me suis dit, ben là, ils vont mettre de l'investissement. J'avais pas compris que des investisseurs avec des VC dans 5 ans, faut que tu vends, là. Tu sais, je veux dire, ils veulent leur retour, là, pour que ça, soit existe. C'est quoi ta stratégie? Fait que je pense que les gens vont au dragon avec une vision plutôt philanthropique de ce qu'est l'investissement des dragons. Puis cette année, je trouve qu'ils sont beaucoup plus cohérents avec ce message-là qu'avant, là. Tu sais, cette année, c'est beaucoup plus dans la watt, coton watté. C'est des plus petits montants. Puis c'est différent, là. Ça change les dents. Mais quand moi, je suis allée, je pense que c'est ça la chose qui fait que ça
bat.
Ben, ouais, parce que moi, la première fois que j'ai rencontré Martin-Luc Archambault, là, il m'a dit, là, puis ta petite business de lifestyle, là, tes vacances à Cuba une fois par année, ta petite BMW, j'ai pas de BMW, là, mais la petite BMW que tu vas t'acheter, ça m'intéresse pas. Moi, tu peux faire 20 millions. Je suis comme, d'où tu me donnes 20 000 piastres? Tu veux que je fasse 20 millions, 20 000 piastres?
Arc, j'ai tellement entendu d'affaires sur ce gars-là. Je rentrerai pas dedans parce que je veux pas être ce genre de podcast-là, mais il y a tellement...
Il coûte cher en crise, laisse-moi te le dire.
Ah oui, okay. j'ai entendu tellement d'affaires là, sur lui, puis surtout venant du web, j'ai connu des gens qui l'ont connu, puis je veux dire, son claim to fame, à ce que j'ai entendu, sous toute réserve, est complètement n'importe quoi.
Moi, là, j'aurais rien contre le gars si à la télé, il y avait l'attitude qu'il y a eu avec moi après la télé. Fait que moi, si à la télé, t'étais comme, ouais, ben, je m'en crisse un peu, il va falloir que tu montres que ça peut scaler cette affaire-là, nanana. Tu sais, à la fin de la journée, on va pas les vendre une par une tes machines à café. Puis qu'en coulisses, puis dans le premier meeting, 6 mois après, c'est la même attitude.
Mais comme tu dis aussi, c'est 20 000 piastres, là. C'est pas 20 millions, là, qui t'apportent, là.
Fait que si moi, je suis allée à la TV, puis Martin-Luc, il est comme, wow, c'est extraordinaire, c'est combien de temps, je vais t'aider. Là, que j'arrive dans mon meeting, puis je suis toute comme, il va m'aider, c'est malade. Puis qu'il me dit, je fais pas 20 millions, je suis de la merde. Ben là, je suis fâchée.
Ben oui, c'est totalement justifié, puis c'est ça que j'aime, justement, moi, avec la version canadienne-anglaise, puis la version américaine, Shark Tank, c'est que, justement, c'est tellement plus vrai, parce que t'entends des discours, voilà comment ça va se passer, étape 1 comme ça, étape 2 comme ça, étape 3, tu vas pas aimer ça, mais...
Étape 4, je te vire de l'entreprise, puis je la rachète.
Exactement, puis j'aime ça, parce que je comprends beaucoup de choses. C'est sûr que c'est moins cute pour les matantes, mais je trouve ça tellement plus, le terme en anglais, valuable, que, justement... Ouais,
mais au Québec, on a de la misère à se faire dire la vérité aussi en pleine face, tu sais.
Oui, on vit le monde de Calinour.
C'est ça, tu sais, c'est comme, oh, faut puis on tu sais, je le vois aussi avec ma fille, puis pourtant, on l'élève pas comme ça, mais tu sais, il y a cette attitude-là, très jeune, de vouloir plaire à tout le monde.
Oui.
Tu sais, genre, on dirait que, moi, je l'alimente pas, mais je sais qu'il y a des parents que, sans faire exprès, l'alimentent un peu. Tu sais, dans le sens que ils vont aller dire, ah, ben, tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, Daphné, elle, ben, tu l'as vu, tu sais, c'est Miss Coquette qui va dire plein de compliments. Puis, tu sais, elle veut vraiment plaire à tout le monde. Puis, tu sais, elle veut pas décevoir personne. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, très, très... Puis là, quand elle est fâchée ou que ça marche pas, puis là, ou qu'elle va faire une erreur, ou, tu sais... T'sais, on s'entend là, des enfants qui se bousculent, des choses comme ça, ça arrive, puis on le voit, mais ça se reflète aussi dans l'attitude sur le long terme.
Mm-hmm.
Cette attitude de Calinours-là.
Je trouve vraiment, puis pas presque chaque épisode, mais au moins une fois par saison, on revient là-dessus. Mais tu sais, notre genre de background de judéo-christianisme, de genre, faut faire plaisir à la paroisse, que tout le monde aime. Puis je trouve tellement que ça nous a tiré une balle dans le pied, parce que je vais raconter quelque chose de drôle. C'est drôle, puis c'est pas drôle, ça me fait même un peu de peine. Mais tu sais, je suis quelqu'un que j'essaie d'être vrai en affaires, j'essaie de dire les vraies choses. Puis il y a beaucoup de de Canadiens francophones avec qui je ne m'entends pas nécessairement bien en affaires, que je trouve ça plate parce que je voudrais, mais parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, ils voudraient entendre l'histoire sugar-coatée. Puis même si ça ne fait pas plaisir, je ne veux pas être méchant, je veux donner les meilleurs conseils possibles. Puis souvent, c'est impossible parce qu'on se fait rentrer dans un pattern puis un cycle de mensonges où est-ce qu'on est dans une réalité alternée. Puis moi, je n'accepte pas ça. Et puis je tiens mon point ferme là-dessus en disant quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il y a quelque chose qui devrait être changé parce que c'est un no-brainer, je vais insister à dire qu'il faut avoir cette discussion-là, il faut arrêter de l'ignorer. Ça ne veut pas dire s'engueuler, ça ne veut pas dire se chicaner ou s'insulter, ça veut dire regardons la bonne direction où il faudrait aller avec tel ou tel projet parce que de la manière actuelle, ça ne donne pas de sens puis vous allez perdre. Puis il y en a que même parce qu'ils savent qu'ils vont perdre dans une stratégie ou un commitment XYZ, ils vont continuer puis ils vont foncer tête première dans le mur parce que, justement, ils sont dans leur narratif qui est d'une réalité alternée. Et puis, comme je disais, ça, je vois beaucoup ça au Québec, puis ça me fait de la peine. Tandis que du côté canadien, anglais ou américain, où est-ce qu'on fait affaire une fois de temps en temps, il n'y a pas une fois où que je ne me suis pas bien entendu avec les preneurs de décision. On devient les best buddies ever, every single time!
Ça, c'est comme, ouais, tu as finalement peut-être raison. Chaque fois qu'on a un client anglophone, c'est... T'as finalement raison.
Ah ouais, puis on devient le best.
Il y a un rapport à l'argent, il y a un rapport à ce que c'est réellement un retour sur investissement qui est beaucoup plus intrinsèque à le upbringing anglophone. Voyons, je vais m'accrocher là-dessus. À ce upbringing. Je suis même pas capable de le dire. C'est donc pour moi upbringing. Anglophone qui est plus. Il y a juste une façon différente de calculer un taux sur investissement. Moi, je le vois beaucoup. Bon, c'est un gros débat. Je ne vais pas embarquer dans le franco en
plus. Moi, je dirais.
Moi, je pense au high. J'embarque pas. C'est
bon. J'aime
aussi, on est pris en sandwich. On va faire les Kalinours pour celle-là.
Exactement. J'aime les deux. Puis je voudrais jamais rentrer dans le duel parce que je veux dire, il n'y a pas plus Québécois que moi par rapport à mes origines. Je veux dire, je suis Canadien, Français d'un côté, j'ai de la descendance anglaise de l'autre côté, j'ai de la descendance française et amérindienne. Fait que, tu sais, je peux pas prendre un côté ou de l'autre. J'adore faire affaire avec tout le monde. Mais ce que je trouve incroyable, c'est comment différent c'est. Et puis, je pense que avec le futur, on va arriver à un genre de consensus. Je pense que, me semble que c'est moins différent que depuis il y a une couple d'années. Fait qu'encore là, une autre chose qui, je pense, que grâce à la crise, va aller pour le mieux. Fait que, pas une place si pire pour être en vie. Là, ouais. Je traduis de l'anglais, là, parce que là, je vais te parler de ça.
It's the best time for it to be alive.
It's the best time to be alive.
Oui, c'est ça.
Ouais. Fait que, super. Puis sinon, toi, j'ai vu que sur le web, tu as fait ton site web avec Shopify. Ta boutique en ligne est avec Shopify. Qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est arrêté sur Shopify plutôt que quelque chose d'autre?
De un, c'est la seule dont j'avais jamais entendu parler. J'en connais aucune autre. J'en connaissais aucune autre. De deux, moi, j'ai fait affaire avec les gens de Champio Stratégie, Marc-André Lancio, puis le professeur Bertrand. Ils m'ont dit bon, ben, tu as besoin d'un site, on va te le faire. C'est là-dessus qu'ils l'ont fait. Fait que j'ai comme pas de. Tu sais, quand tantôt on disait je suis passée du plan A au plan 1, je suis vraiment à l'étape 1, là. Moi, je suis à mes premiers balbutiements de vente en ligne. Je n'ai aucune opinion, aucune connaissance sur est-ce que le site A est beaucoup plus facile à manipuler que le site B. Est-ce que je ne sais rien.
Puis tu débrouilles bien.
Merci, t'es fine.
Tu débrouilles bien. Puis je pense dans ton cas, Shopify, c'était tellement le meilleur choix parce que dépendant du contexte, encore là, c'est quelque chose qui est très contextuel dans le sens que dans quel contexte, telle solution va être mieux. Il y a beaucoup d'agences qui se spécialisent dans une ou deux solutions, puis il y a juste ça qui existe, puis justement, ils ont des œillères, ils ne voient rien d'autre. Nous, on recommande, je dirais, à peu près 7 fois sur 10 Shopify, mais il y a un 3 fois sur 10 où il y a des solutions qui seraient meilleures. Je pense que c'est toujours une bonne idée d'explorer les autres solutions quand on sait qu'il y a d'autres solutions. Mais c'est vraiment, ça. Je pense, dans ton cas, tu es directement dessus la bonne plateforme, surtout une plateforme que tu peux gérer toi-même, que tu peux scaler toi-même et puis que tu n'as pas besoin de logiciels complexes pour faire le
suivi. C'est ça. Moi, je triple la première journée, les 2-3 premières journées, j'arrêtais pas de taper ses nerfs aux gens. Comment que je change le prix d'affaires? Comment que j'ai créé un nouveau produit, il n'apparaît pas sur ma maudite page. C'est juste de comprendre qu'est-ce que tu actives pour que ça aille par rapport aux pages. Bon, bref, tout ça. Ouais. c'est une grosse courbe d'apprentissage, mais si tu es vraiment motivé, tu fais ça en 3-4 jours, puis là, tu as compris.
Ben, c'est ça, exactement. Les bases ne sont pas du tout du ciel. C'est sûr que quand tu vas justement dans faire du développement d'applications custom avec des buts vraiment précis ou que tu veux un thème complètement sur mesure, qu'une fonction XYZ, c'est là que ça devient compliqué chez EPFR. Mais si tu te dis, moi, je veux simplement vendre en ligne, c'est ce qui m'intéresse, commercer en ligne, je ne veux pas réinventer la roue, tu as juste à te mettre sur les rails que Shopify te propose, puis tu suis le plan que eux te disent.
Ouais.
Voilà, c'est pas plus compliqué.
Quel plan? Hey, ils m'envoient des petites notifications pour me dire « Hey, salut, tu n'as pas optimisé telle chose. Hey, salut, ça veut-tu que tu pouvais modifier la politique de shipping? Voici 75 articles sur des stratégies de politique de shipping. Hey, tu veux dire que tu es quelqu'un qui peut plus t'aider, non? »
Après ça, tu as YouTube. Mais c'est ça, exactement.
C'est fou, là!
Exactement.
Oui. C'est fou! Je veux dire, that is what I wanted. Une plateforme qui allait me permettre d'apprendre, de me développer, sans tirer le jus de tous les gens que où je dois payer ou qui me rendent service. Tu sais, fait que moi, t'as dérangé à 11h le soir parce que j'ai décidé que je voulais faire une variation de couleur sur le fucking SKU-CQ-0014, là! Tu me répondras pas, OK? T'as d'autres choses à faire. Fait
que, oui, le fameux SKU que les gens n'ont pas reçu le bon.
Oui, oh my God, c'est tellement stressant. Non, c'est parce que j'ai compris des affaires. OK, moi, tu sais, j'étais chanceuse parce que je fais affaire avec un 3PL qui s'occupe de tout le picking, le shipping, etc. Fait que j'ai pas eu besoin de shipper des paquets de mon salon, genre.
Ouais. Enfin,
mais eux, leur spécialité, c'est du e-com. Fait qu'ils ont déjà un ERP qui vient se plugger dans Shopify, ce qui fait que t'as rien à faire. Sauf créer des SKU au bon moment puis s'arranger pour que ça fitte dans le système. Puis que il y a comme une logistique en arrière fucking compliqué, que quand t'es parachuté dans l'e-com, que pendant la période COVID, ton fournisseur n'a pas le temps de t'apprendre, que toi, t'as pas le temps d'apprendre, puis tu t'es complètement largué dans ce processus-là, puis là, il y a plein d'erreurs, puis là, il y a plein de monde qui t'écrit, puis là, il y a plein de commandes en retard, puis là, il y a tu fais 3 semaines de marde, après ça, ça va mieux.
Puis tu sais, t'es pas la seule là-dedans, à peu près tout le monde qui commence, puis tu sais, qui vont le faire par eux-mêmes, vont vivre ça, et puis même avec des clients que nous, on a sous notre aile, dès le début, puis ça, on leur dit les quelques premiers jours, on va vraiment monitorer de proche qu'est-ce qui se passe, on a peut-être passé à côté de quelque chose, il y a beaucoup de manipulations humaines impliquées dans le processus, donc on va regarder de proche qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas, tu sais, le temps que la machine soit bien rodée, c'est hyper important. C'est hyper important, puis ça permet justement de mieux se rediriger, puis pas de traîner des erreurs sur le long terme.
Exact. Parce moi, ce que je suggère aux gens, c'est de s'entourer de professionnels pour tout ce qui est au niveau de la logistique, de la construction, de tout le démarrage, puis du maintien de la logistique pour que le client ait la bonne chose. Puis après ça, d'aller faire beaucoup de self-instruction, hein, d'être un peu autodidacte, d'aller voir sur Internet, puis de lire les 1 milliard
d'articles. Pour Shopify en tant que tel, il y a tellement de ressources. Il y a tellement de ressources.
Des applications,
phénoménal.
Oui, non, vraiment, Shopify, on l'aime parce que ça permet de faire des trucs qui sont hyper simples, hyper rapides, beau, bon, pas cher. Autant que tu peux aller dans le hyper complexe et faire des trucs avec des multinationales, justement, avec leur solution Shopify Plus. C'est extrêmement flexible et très long terme comme solution. Encore là, 7 fois sur 10 dans l'e-commerce, c'est la bonne chose à faire, mais ça vaut la peine d'explorer pour le 3 fois sur 10. Dernièrement, on a travaillé avec un projet, je pense que WooCommerce aurait été mieux.
Oui.
Mais quand même, ça a fait la job, mais...
Ils ont pris le button by Shopify.
Ouais, ça, button, ça. Ouais, non, c'est ça, c'est un scénario compliqué.
Ah, c'est hot, ça, le by button.
C'est hot, ben vas-y.
Non, mais c'est hot, le by button, là.
C'est hot.
Tu as compris comment rentrer du code dans ton code. Moi, je trippais ma règle, je commençais à crisser partout. Je suis devenue folle avec le by button. Chaque by button fit avec la couleur. Je suis devenue complètement débile. Puis après ça, l'intégration, toi, avec Instagram.
Ça, c'est le fun.
Les gens, ils cliquent dessus. Ça t'amène sur le produit, sur ton site. Hey! Puis là, Shopify te dit, tel client vient de telle pub.
On a un client dans le domaine de la mode, justement, qui a tagué ses items dans le Instagram. Il y a à peu près facilement 50-60% de leurs ventes qui viennent de ça, justement, des produits tagués sur Instagram. C'est incroyable. Oui, vraiment, c'est clair. Et sinon, ça fait un bon bout, je pense, qu'on parle. Je pense que ça va être bientôt la fin. Je pense que c'est probablement une de nos plus longs épisodes, mais c'était fun, c'était tellement intéressant. Moi, je vais en faire un autre plus tard parce que je peux
pas. Non, mais ça, c'est clair que moi, je veux te re-recevoir post-COVID.
Ah ouais, ouais.
Tu sais, post-confinement et tout ça, mais on va se parler aussi entre-temps. Mais tu sais, savoir comment que les choses ont évolué aussi, tu sais, par après, puis de prendre le pouls parce que c'est vraiment, tu sais, des discussions tellement enrichissantes. Puis merci beaucoup de ton temps.
Merci d'avoir
été. C'est vraiment apprécié. Puis écoute, dès que c'est en ligne, on te l'envoie. Ça va être disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et plusieurs autres. Donc, c'est ce qui conclut notre podcast.
Fait qu'on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité exceptionnel, incroyable et formidable.
Oui, il y en a comme trois avec qui je t'en pourrais parler. Fait que ça va être à suivre et on va avoir des belles personnes avec des belles valeurs comme celle de Taïna.
Et
qu'on...
pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment qu'ils puissent pivoter et puis réagir aussi bien aussi vite que qu'est-ce que Taïna a fait et puis qui passe à travers cette peur-là, cette hésitation-là, puis qui prennent des actions massives, qui aillent à l'extérieur de qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de voir pour aller chercher de l'aide et puis qu'ils fassent les bons move pour bien sortir de cette crise, parce que naturellement on veut sauver tout le monde, on veut pas que personne sorte amoché de cette crise-là, puis moi c'est ça que je souhaite, c'est que les gens fassent les bons moves, qu'ils prennent le temps, puis que tout le monde comprenne qu'on vit maintenant dans une réalité différente. Donc merci d'avoir été
merci
là!
Merci beaucoup!
Merci!
Salut!
Et qu'on se voit un autre fois dans un autre épisode de
Wi-Fi Café Ambition!
Ciao!
Salut!
Bye!